Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 10 avril 2018. C'est Hélène Denis qui vous parle. Bon mardi, Jean-Sébastien.
Bon mardi, Hélène.
En forme?
Mais toujours, toujours oui, en forme, voyons.
Tant mieux. En forme de quoi?
Oh.
Ça, c'est une joke de la petite vie et compagnie. Là. Mm. C'est du Claude Meunier. Ouais. J'ai toujours trouvé ça drôle comme question.
Oh, mais c'est un humour, c'est un humour qu'on aime bien ici au Québec.
Oui, absurde, on aime ça. Alors, allez-y avec les éphémérides en espérant qu'il n'y ait pas trop d'absurdité dans ce que vous allez nous raconter.
Non, eh bien, petite question piège. Avant de débuter, quel jour sommes-nous outre que le 10 avril?
Le centième de l'année.
Le centième de l'année. Vous avez bien suivi
oui,
la chronique.
Oui, j'écoute mes leçons.
Déjà le centième jour de l'an 2018 et en ce 10 avril, on recule en 1875 alors que la police montée du nord-ouest du Canada reçoit pour mission d'établir un poste qui deviendra la ville de Calgary. Donc, les prémices de Calgary dès le 10 avril 1875. 10 avril 1912, cette fois, le Titanic est mis en service, départ de Southampton.
S'ils avaient su.
Oui, mais non, ils n'ont pas su. 1928 à New York, un nom qu'on a mentionné hier, car c'était son anniversaire de décès le 9 avril 1982, mais le 10 avril 1928 à New York, Wilfrid Pelletier devient un des chefs d'orchestre du Metropolitan Opera. 1938, lors d'un référendum, on verra à la suite du résultat de ce référendum à quel point c'était sûrement... totalement libre de choix, 99,75% des Autrichiens en 1938 votent pour le rattachement du pays, donc l'Autriche, à l'Allemagne nazie.
C'est presque la majorité, ça?
C'est presque l'entièreté, 99,75%, oui. Donc on peut rétroactivement se poser des questions sur le libre choix que les gens avaient.
Tout à fait démocratique.
Absolument. 1952, le studio Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, lance le film musical Singing in the Rain, avec notamment Gene Kelly. 10 avril 1957, un régime d'assurance hospitalisation est adopté à Ottawa prévoyant des coûts partagés entre le fédéral et les provinces. Partage des coûts médicaux qui fait encore jaser et qui fera sûrement encore jaser pour les années à venir. 10 avril 1970, possiblement par inadvertance ou du moins non officiellement, Paul McCartney annonce la séparation des Beatles lors d'une entrevue. Il faut dire qu'en 1970, bon, il faisait cette entrevue pour le lancement de son premier album solo. Et à la question « Est-ce que vous prévoyez travailler de nouveau avec John Lennon? » Il répond « Non ». Alors ça sonne le glas pour la formation des Beatles et les autres membres qui ont possiblement appris par la même occasion.
C'est comme ça que c'est arrivé, je savais pas.
Ben, du moins, c'est la version, c'est une des versions.
Ouais, ouais.
On ne sait pas avec la légende des Beatles. On dit également que Paul McCartney n'est plus de ce monde et c'est un clone qui est à sa place depuis toutes ces années. Donc, est-ce vrai? Moi, j'aime bien penser que oui, concernant l'histoire de la séparation.
En même temps, c'est pas Dieu, Paul McCartney. C'était pas lui nécessairement qui décidait pour les quatre.
Non. Non, mais...
On va l'appeler.
revenons à la chronique avant de s'égarer un peu trop. 10 avril 1972, Washington et Moscou signent un traité d'interdiction de la guerre bactériologique. 1990, une nouvelle qui, je sais, est très chère pour vous, Hélène.
Oui.
Aux communes, la loi créant la taxe sur les produits et services est adoptée. par 144 voix contre 114, c'est le début de la TPS,
qui a
28 ans aujourd'hui. Bonne fête, TPS.
Oui, je ne sais pas pourquoi vous faites un lien avec moi, mais je pense que vous êtes un petit peu sarcastique.
Mais non, parce que je sais que vous avez notre économie à cœur, Hélène.
Oui, comme vous d'ailleurs.
10 avril 1998, signature de l'accord de paix pour l'Irlande du Nord. Et on termine cette petite chronique avec l'anniversaire de naissance en 1829 du pasteur William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, et également en 1954, un 10 avril, on perdait le pionnier français du cinéma, Auguste Lumière, un des deux frères Lumière.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, Cité de la Santé, danger, patients violents, le nombre d'agressions a explosé au centre hospitalier de Laval. Ligne bleue, 6 km, 4 milliards, les 5 nouvelles stations devraient être terminées en 2026. La chronique de Rima El-Khoury, La parité sans pitié. Et la chronique d'Hugo Dumas, Au secours de Sophie. Il parle ici de Sophie Lorrain. Sport, bilan du Canadien, des violons pas toujours accordés. La chronique de Philippe Quentin. Alors, je commence avec les sports. Tout le monde en parle, et nous aussi, des violons pas toujours accordés. C'est une chronique de Philippe Quentin. Jeff Molson et Marc Bergevin ont souvent paru sur des longueurs d'onde différentes hier. D'un côté, le président propriétaire a été tranchant. Le statu quo est inacceptable. Tous les secteurs de l'organisation seront réévalués et la transparence envers les fans deviendra une valeur du Canadien. De l'autre, le directeur général a réitéré toute sa confiance dans le travail de ses responsables du recrutement professionnel et du repêchage amateur. Cela n'annonce pas une profonde remise en question, même sur le plan du fonctionnement. Bergevin a aussi mis des bémols sur ce qu'il pouvait réellement communiquer aux fans durant la saison, qu'il s'agisse des blessures ou des motifs derrière un échange, n'ouvrant la porte qu'au dévoilement des données contractuelles lorsque le joueur signe un contrat. En clair, les violons de Molson et Bergevin n'ont pas toujours été accordés, ce qui, de la part de deux hommes qui assurent se parler tous les jours ou presque, est étonnant. Le président propriétaire a même remis les pendules à l'heure quand le DG, qui a évoqué dès le début de la conférence de presse un problème d'attitude, entre guillemets, des joueurs pour expliquer la pénible saison du Canadien, a de nouveau été questionné à ce sujet. « L'attitude est certainement une partie du problème », s'est interposé Molson. « Mais le vrai message, c'est que nous n'avons pas été assez bons et des changements auront lieu pour qu'on devienne meilleur ». Plus tard, lorsqu'un collègue a demandé à Bergevin s'il se séparait des joueurs n'ayant pas une approche gagnante, Molson a sauté dans la mêlée. « Est-ce que je peux répondre à ça? » Il a ensuite expliqué avoir posé cette question à son DG la veille. « Ceux qui ne sont pas prêts à changer ne seront pas là la saison prochaine », a-t-il promis avec fermeté. « Ça, c'est la réponse. » Au-delà des mots, le ton de Jeff Molson est significatif. Le mois dernier, il a donné la mesure de son impatience en reconnaissant « enfin » que les performances de l'équipe étaient inacceptables à tous les niveaux et que son DG le savait très bien. Hier, il a réitéré ce message avec vigueur. Quand il en a ressenti le besoin, il a précisé sans ménagement les propos de son DG, lançant un message clair sur la nouvelle ligne de conduite de l'équipe. On était loin du Jeff Molson ayant si souvent repris les arguments, les promesses et les excuses de son DG quand il était interrogé sur le rendement de l'équipe. Cette fois, c'était le patron qui parlait. Et si Bergevin n'a pas compris que celui-ci en a ras-le-bol du surplace de son équipe, il aurait avantage à regarder la vidéo de la conférence de presse en buvant son café ce matin. Une exclusivité de la presse, sous la plume de Vincent Larouche, explosion du nombre de patients agressifs, violence à la hausse contre le personnel soignant, surpopulation chronique et employés qui n'en peuvent plus. Dans un document interne obtenu par la presse, des gestionnaires du service de psychiatrie de l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval sonnent l'alarme quant à la situation de plus en plus inquiétante et au risque élevé d'événements graves dans leurs unités. Le 1er décembre, un patient psychotique a grippé soudainement les deux pieds d'une psychiatre de la Cité de la Santé qui était assise sur sa chaise dans un bureau d'entrevue. Prise au dépourvu, la médecin est tombée au sol sur le dos. Le patient s'est jeté sur elle et a essayé de lui saisir le cou. Un infirmier qui se trouvait sur place a tenté de dégager la psychiatre. Le patient s'est retourné vers lui et a cherché à l'étrangler à son tour. L'infirmier est parti en arrêt de travail pour plusieurs mois. Ces agressions sont évoquées dans un état de la situation interne rédigé en janvier par la chef des unités de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Rosa Di Meo, et la coordonnatrice à la direction du programme de santé mentale, Brigitte Tremblay. L'état de la situation rejoint les cris d'alarme lancés dans d'autres établissements du réseau de la santé récemment. Voici ce qu'elle constate. Les unités de psychiatrie à Laval ont été le théâtre de 54 agressions contre des employés l'an dernier, contre 28 en 2015, les blessures subies par des employés en maîtrisant physiquement des patients ont conduit à 15 arrêts de travail au cours de la même année. Le nombre de cas de patients agressifs a augmenté de 106 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de déclarations de situations dangereuses a quadruplé entre 2015 et 2017. Les gestionnaires mettent en cause la surpopulation qui afflige leurs unités, notamment depuis que la révision de mandat de l'Institut Philippe Pinel de Montréal a forcé l'hôpital Lavalois à prendre en charge un plus grand nombre de patients agressifs. La situation difficile en psychiatrie fait que le taux de roulement de personnel n'a jamais été aussi élevé, selon les gestionnaires. Questionné par la presse, le porte-parole du CI3S, Pierre-Yves Séguin, a souligné que plusieurs des problèmes soulevés dans la missive de janvier ont déjà été réglés et que d'autres le seront au cours de l'année. Le syndicat des préposés aux bénéficiaires affiliés à la CSN est moins enthousiaste. Il blâme le gouvernement libéral pour le manque de financement. Le pilier d'une ville endeuillée, c'est l'envoyé spécial Audrey Ruel-Manceau. Il est assis dans la rangée 5, section M, juste derrière la zone des buts où les Broncos s'entraînent à tirer depuis des décennies. Contraste frappant avec la veille, l'aréna Elgar Peterson était pratiquement vide hier. Mais ceux qui y entrent et remarquent la présence du maire Rob Muench s'approche, lui serre la main, lui font une accolade, le remercie s'il garde le phare depuis 3 jours. Le maire de Humboldt admet qu'il a bien besoin de cette chaleur humaine. « Bonjour, M. Mensch. Je m'appelle Craig Sluzer, Broncos de 1972 à 1973. Je veux simplement vous dire que vous faites un travail magnifique. Mais oui, je me souviens de vous, M. Sluzer. Rob Mensch a habité toute sa vie la petite ville de Humboldt. Maire depuis 2016, il avait siégé au Conseil les 10 années précédentes. Depuis 3 jours, il est devenu, bien malgré lui, la voix d'une ville endeuillée, plus que jamais le pilier de ses citoyens. Ces derniers jours ont été surréels. Oui, je crois que c'est le bon mot, surréel, observe le maire Muench, réfléchissant tout haut à la tempête qu'il est en train de traverser. Vendredi soir, sur la route 35, un camion semi-remorque et un autocar transportant l'équipe de hockey junior de sa ville sont entrés en collision. Un entraîneur adjoint, un commentateur, un statisticien et 10 jeunes hommes de 16 à 20 ans sont morts ce soir-là. Rob Muench n'a presque pas dormi depuis 3 jours. Son téléphone ne dérougit pas. Après son entretien avec la presse, il avait prévu aller faire une sieste. 2 heures plus tard, il était toujours à l'aréna, comme Colette Roy-Laroche l'avait remarquablement fait lors de la tragédie de Lac Mégantic. Il est de tous les points de presse et immanquablement disponible pour les siens. « Je n'ai pas parlé avec l'ex-mairesse de Lac-Mégantic, mais ça pourrait être une bonne idée. Elle a aussi traversé quelque chose de tragique, pense-t-il, avouant que la voie ferrée qui traverse sa ville suscite d'ailleurs de nombreuses préoccupations, mais c'est une autre histoire. » Perquisition chez son avocat. Donald Trump a laissé éclater sa colère hier à l'annonce d'une perquisition du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, son avocat personnel et l'homme qui a payé une actrice de film porno pour taire une liaison présumée avec le président. « C'est une honte, c'est une véritable honte, c'est une attaque contre notre pays », a tempêté le président américain en présence des principaux dirigeants militaires des États-Unis, réunis à la Maison-Blanche pour évoquer le dossier syrien. Cette perquisition spectaculaire a été lancée en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, selon l'avocat de M. Cohen, Stephen Ryan. « Nous parlons de la Syrie, nous parlons de choses sérieuses et j'ai cette chasse aux sorcières, point de suspension, qui dure depuis plus de 12 mois. Vous pouvez même dire qu'elle a commencé le jour où j'ai gagné la nomination, a poursuivi le président septuagénaire dans un flot ininterrompu de paroles. « Beaucoup de gens sont en colère, je peux vous le dire », a-t-il ajouté. De son côté, l'avocat de Michael Cohen a dénoncé une perquisition complètement inappropriée et inutile qui a eu pour conséquence la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client par la police fédérale.
Cette pause instrumentale est une gracieuseté de Sir Paul McCartney. C'est tiré de son premier album solo, cette pièce qui s'intitule Sing Along Junk, son album solo McCartney, celui paru en 1970, qui fait écho à la nouvelle de l'éphéméride, sur lequel le 10 avril 1970, comme on en parlait il y a une dizaine de minutes, Paul McCartney annonça la séparation des Beatles.
En une du Devoir de ce mardi 10 avril 2018, un dessin, Café de Paris, un personnage, et à côté du personnage, on peut lire « Tout ce que je sais d'Hemingway, jeune à Paris, c'est qu'il a les yeux bridés quand il écrit et qu'il se bouffe la moustache. » Dany Laferrière fait revivre le fameux Paris littéraire. Dany Laferrière, l'immortelle enfance, avec autoportrait de Paris avec chat, roman entièrement dessiné à la main, l'écrivain dévoile une émotion jusqu'ici souterraine. Parlant de choses souterraines, les expropriés de la ligne bleue, le prolongement de la ligne de métro est attendu depuis 30 ans, mais ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de l'annonce faite lundi. Trans Mountain, Ottawa dit être prêt à tout pour sauver le pipeline. L'ouest du Canada vit une crise politique d'une rare intensité, l'Alberta menaçant de réduire ses livraisons de pétrole à la Colombie-Britannique. Une nouvelle enveloppe pour le Musée d'art contemporain. L'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, se penche sur la présence des drones et des taxis volants. Le Monde. Trump veut punir la Syrie. Le président des États-Unis promet une décision imminente sur une éventuelle frappe militaire. Cette fois, c'est la bonne, a assuré le premier ministre Philippe Couillard lundi, alors qu'il annonçait le coup d'envoi du projet de prolongement de la ligne bleue du métro en compagnie de son homologue fédéral Justin Trudeau. En 2026, le métro se rendra jusqu'à Anjou, mais pour que cela se réalise, plusieurs commerçants installés le long de la rue Jean-Talon devront être expropriés. Ottawa et Québec se sont entendus pour financer la réalisation du dossier d'affaires qui devrait mener à la concrétisation du projet. La contribution du gouvernement fédéral atteindra 16 millions, alors que Québec versera 346 millions pour réaliser cette première étape. Ces investissements serviront à procéder à l'acquisition et à l'expropriation d'immeubles, à lancer un appel d'intérêt sur le choix du mode de réalisation, à déterminer les coûts et l'échéancier et à mettre en place un bureau de projet. Le prolongement du métro prévoit l'ajout de 5 stations sur un tronçon de 5,8 km jusqu'à Anjou, dans l'axe de la rue Jean-Talon. Les stations seront construites à l'intersection d'artères importantes, soit Pie-Neuf, Viau, Lacordaire et L'Angelier. La dernière station sera située aux Galeries d'Anjou. Un tunnel piétonnier reliera le métro au système rapide de Parbus de Pie-Neuf qui doit être mis en service en 2022. L'annonce survient à quelques jours de la fin des réserves foncières imposées en 2014 sur une vingtaine de propriétés de la rue Jean-Talon. Je suis très content qu'on ait un métro dans l'est de Montréal. Mais en même temps, je suis déçue et même très fâchée parce qu'ils ont décidé que le site de notre local serait parfait pour une sortie de station de métro, a déploré le dentiste Antonio Mirarchi, copropriétaire du centre dentaire Saint-Léonard qui fait l'objet d'un avis d'expropriation. Le bâtiment pourrait être épargné si le gouvernement décidait de construire l'édicule du métro dans le parc situé juste en face, dit-il. L'immeuble construit en 1999 à l'angle des rues Jean-Talon et Lacordaire, abrite également une pharmacie ainsi qu'un cabinet de médecins. Le propriétaire de l'immeuble, Francesco Cavalleri, a pu rencontrer le sous-ministre des Transports et le chef de cabinet de Philippe Couillard pour leur remettre sa pétition. Alors, c'est une pétition demandant la construction de la sortie de métro dans le parc en face de l'immeuble. On m'a dit que la proposition serait étudiée, mais qu'il y avait des arbres matures dans le parc et ça pose problème. Donc maintenant, on fait passer des arbres avant l'avenir de 120 employés, s'offusque-t-il. Parité, François Legault change de ton. Durant la campagne électorale 2014, François Legault avait exclu l'idée qu'un éventuel cabinet caquiste soit paritaire. « Il faut prendre les gens les plus compétents », avait-il dit. 4 ans plus tard, le ton a changé. Le Conseil des ministres d'un gouvernement Legault sera paritaire, promet-il maintenant. Pour être capable de respecter cet engagement, on doit s'assurer qu'on a 50 % de candidats dans les 70-75 circonscriptions dans lesquelles la CAQ a de réelles chances de victoire, a lancé le chef caquiste lundi devant un parterre d'invités du groupe, la gouvernance au féminin. L'engagement de M. Legault, déjà évoqué samedi dans un événement organisé par Force Jeunesse, s'ajoute à ceux similaires du Parti québécois et de Québec solidaire. À l'heure actuelle, seuls les libéraux de Philippe Couillard ne promettent pas un conseil des ministres paritaire en cas de victoire au scrutin d'octobre prochain. Vigie Parité, candidat officiel aux prochaines élections en date du 9 avril 2018, CAQ, 11 femmes sur 23 candidats, PLQ, 8 femmes sur 22 candidats, PQ, 11 femmes sur 28, QS, 10 femmes sur 17 candidats. Total, 44,4 % de candidatures féminines. Jacques Deslauriers presse le ministre François Blais d'alléger les conditions d'admissibilité au nouveau programme de revenus de base, à défaut de quoi des milliers de personnes sans emploi pourraient, selon lui, vivre ou revivre un enfer bureaucratique. Tout d'abord, il ne faut pas que ça prenne 4 ans, lance le résident de Rawdon à quelques heures du coup d'envoi des consultations sur le projet de loi 173 à l'Assemblée nationale. Le prestataire de solidarité sociale salue la volonté du gouvernement libéral de hausser progressivement le revenu disponible de personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi de 12 749 $ en 2017 à 18 029 $ en 2023 en instaurant un revenu de base. Mais cette aide financière supplémentaire serait garantie non pas à toutes les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi, mais aux individus ayant des contraintes sévères à l'emploi et bénéficiant du programme de solidarité sociale depuis au moins 66 des 72 derniers mois, indiquent les intentions réglementaires de M. Blais. M. Deslauriers ainsi que le collectif pour un Québec sans pauvreté y voient un délai arbitraire. Une pétition circule pour que l'Église historique de Saint-Eustache ne soit pas victime d'une profonde réorganisation du diocèse dont elle dépend. Le diocèse de Saint-Jérôme doit en effet annoncer le 15 juin prochain combien de ses 58 églises devront fermer leurs portes avant d'être vendues ou démolies. Plusieurs craignent que le bâtiment religieux de Saint-Eustache ne fasse partie du nombre. Construite en 1783, cette église de pierre fut considérablement modifiée en 1850. Elle avait été lourdement endommagée par un incendie provoqué par les troupes britanniques durant les soulèvements révolutionnaires de 1837. C'est un texte du périodique régional Mon Journal qui a d'abord suscité un fort vent d'inquiétude au sujet de l'avenir de cette église, montrant du doigt le fait que l'archevêché ne considère pas qu'elle jouit d'une plus grande valeur qu'une autre. Le vicaire général du diocèse de Saint-Jérôme, Monseigneur Martin, a expliqué au Devoir que l'objectif premier du diocèse n'est pas la préservation du patrimoine. L'émission Le quotidien des quotidiens se poursuit après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal. Restez avec nous.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ayons-nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoir, car vous sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles que des choses pas comme. Il se dégage de ses cartons d'emballage, des gens la vie hors d'usage, et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend pour pas déconner dès qu'on est né pour des cons, alors qu'on est des foules sentimentales. Avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On nous cloue d'un chiffre, on nous parle aussi d'idées, ah le mal qu'on peut nous faire, mal, on est des foules sentimentales. Foules sentimentales, on est des foules sentimentales. Foules sentimentales, on est des foules sentimentales.
Vous êtes toujours à l'écoute du quotidien des quotidiens. Un peu de jazz en cette matinée. Annie Poulain qui reprenait Foule sentimentale.
En une du Journal de Montréal, OK. Alors, les joueurs du Canadien sont venus chercher leurs effets personnels dans le vestiaire hier, ce qui lance officiellement leurs vacances estivales après une saison à oublier. Alors, c'est plutôt du golf. Bon golf, les gars. On voit avec des bâtons de golf Carey Price, Jordy Benn en train de jouer aussi, Jeff Petrie, Jonathan Drouin, ainsi que Youpi. Et la chronique de Régent Tremblay intitulée « Le vestiaire est malsain ». Et de 6 pour ces ambulanciers. Alors, on a une photo charmante. Les ambulanciers d'urgence santé, Martin Girard et Jean-Michel Morin, ont aidé une femme de 32 ans à accoucher d'une fille dans son salon à La Salle vers 2 heures du matin samedi. La petite Karina, qui est dans les bras d'un des ambulanciers, et sa mère ont ensuite été transportées à l'hôpital. Monsieur Girard et son coéquipier en sont à leur 6e accouchement en 10 ans de service. Congédié d'hydro pour vol d'électricité. Congédié en décembre 2016, le monteur de ligne Stéphane Bellil a contesté son renvoi, mais un tribunal d'arbitrage vient plutôt de rejeter son grief. À mon avis, l'employeur, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise, était en droit de mettre un terme à l'emploi du plaignant, sans avoir à prendre d'abord une mesure disciplinaire moindre, indique l'arbitre Denis Nadeau dans son récent jugement. Le 27 avril 2016, le service d'électricité a été interrompu chez l'employé parce qu'il avait omis de payer une facture de plus de 2 000 $. M. Bellil, qui résidait alors dans les environs de Joliette avec sa femme et ses deux enfants, a profité de son expertise pour trafiquer son compteur et voler pour plus de 2 000 $ d'électricité en 4 mois, peut-on lire dans la décision. Hydro a fini par détecter des anomalies à la résidence de son employé et a envoyé un inspecteur en août 2016. Il a constaté que le compteur avait été retiré et réinstallé, que des fils avaient été ajoutés pour faire dériver le courant et que le seau officiel avait été remplacé par un autre. Le vol d'énergie fait perdre chaque année à Hydro-Québec de 0,3 % à 1 % du total annuel des ventes d'électricité au Québec, soit de 22 à 75 millions de dollars. Plus d'aînés victimes des opioïdes. Le nombre d'aînés qui consomment de la méthadone à cause d'une dépendance aux opioïdes continue d'augmenter à un rythme alarmant au Québec et cela ne risque pas de diminuer car ces médicaments restent trop prescrits, déplorent des experts. De 2016 à 2017, les prescriptions de méthadone ont bondi de 32 % chez les personnes de 65 ans et plus, selon des données de la RAMQ obtenues par le journal. C'est 10 fois plus que pour la population totale où les prescriptions sont en hausse de 3 % pour la même période. Il s'agit d'une conséquence directe des prescriptions d'opioïdes qui ne cessent de croître chez les aînés, craint la docteure Marie-Ève Goyer spécialisée auprès des narcomanes. Les toxicomanes vieillissent, mais on a aussi rajouté une nouvelle population devenue toxicomane après des années de prescription, dit-elle. Les personnes de 65 ans et plus ont le plus haut taux d'empoisonnement accidentel causé par les opioïdes au pays. De plus, le quart des aînés hospitalisés à la suite d'une surdose d'opioïdes suivait pourtant l'ordonnance qui leur était prescrite par un médecin. La docteure Goyer ajoute que les effets secondaires des opioïdes, comme les chutes, la confusion ou la constipation, sont les raisons principales des hospitalisations chez les aînés. On déprescrit à l'urgence, c'est ça notre traitement, dit-elle. une jeune femme brillante meurt. Catherine Drolette, 21 ans, se dirigeait samedi après-midi vers la région métropolitaine où elle étudiait à HEC Montréal, une école de gestion, lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture près de Haumont, en Outaouais. Elle a par la suite percuté une camionnette qui venait en sens inverse. Sa mort a été constatée à l'hôpital. Selon ses proches, Mme Drolette avait l'habitude de circuler sur la route 117 puisqu'elle revenait souvent voir sa famille et travailler chez Amos Toyota, l'entreprise de son père. Mme Drolette étudiait d'ailleurs pour reprendre le flambeau de l'entreprise de son père d'ici quelques années. Elle était très respectée au garage, tout le monde l'appelait déjà patronne. Les parents de la jeune femme étaient dans un avion vers l'Australie au moment du drame. Ils ont appris la nouvelle à leur arrivée à Sydney, selon des proches. Ils ont immédiatement pris un avion pour revenir vers le Canada. Cœur et nouvelle vie pour un ancien drogué. Le jeune homme est reconnaissant d'avoir droit à une seconde chance. J'ai eu une chance inouïe. Je vais en prendre soin, assure Joël Agacé-Maillé, ému en convalescence dans son lit d'hôpital à l'Institut de cardiologie de Montréal. Le journal l'avait rencontré il y a 2 semaines à la suite de sa vidéo virale publiée sur Facebook pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la drogue. Joël Agacé-Maillé avait commencé à consommer à 12 ans et pouvait prendre jusqu'à 10 comprimés de méthamphétamine par jour. Le jeune homme de Barrault, en Abitibi, a hâte de quitter son lit d'hôpital et de rentrer chez lui. Sobre et en meilleure santé, il ne cache pas son désir d'avoir un enfant prochainement avec sa copine. À peine quelques jours après sa greffe, il remarque déjà une différence. Il a plus d'énergie et respire mieux. Il a même recommencé à marcher, ce qu'il ne pouvait plus faire tellement son cœur était malade. Sherbrooke, un policier perdra son emploi pour avoir émis illégalement 523 contraventions pour excès de vitesse. Il purgera 6 mois de détention dans la collectivité. Sébastien Grenier, qui a travaillé à la SQ pendant une vingtaine d'années, ne pourra plus être policier. Le juge Gilles Lafrenière n'a pas consenti à lui donner l'absolution conditionnelle qu'il réclamait, après avoir reconnu avoir émis 523 constats d'infraction sans en avoir le droit. Durant sa carrière, l'homme de 45 ans a vécu des épisodes de dépression majeure. Selon le juge, le policier est conscient de camoufler sa fragilité mentale derrière une image d'homme fort qui excelle dans les compétitions de powerlifting. Le tribunal retient qu'il ne souffrait pas de symptômes dépressifs lorsqu'il a utilisé le radar sans être autorisé à le faire. L'avocat de M. Grenier, Jacques Lafontaine, envisage porter la décision en appel. Être responsable de décès, c'est une citation. La légalisation du cannabis au Canada inquiète l'ancien sénateur Jean Lapointe ainsi que des ministres québécois. Aux prochaines élections fédérales, Justin, il n'aura pas mon vote. C'est clair, net et précis, il m'a mis trop en maudit en faisant cette annonce. Il ne le sait peut-être pas, mais inconsciemment, il va peut-être être responsable de décès de quelques-uns, a déclaré Jean Lapointe, déçu de l'attitude du premier ministre du Canada. Le gouvernement Philippe Couillard venait tout juste d'annoncer une subvention du gouvernement de 1,5 million à la Fondation Jean Lapointe pour soutenir des actions de prévention de l'usage de substances psychoactives chez les jeunes. Et pour terminer, le PDG de Facebook s'excusera encore. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, arrivé hier à Washington, a prévu lors d'auditions très attendues au Congrès cette semaine d'endosser la responsabilité personnelle des erreurs commises par le réseau social qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme. Il est arrivé au Capitole accompagné de son épouse Priscilla Chan pour rencontrer des parlementaires avant ses auditions formelles prévues aujourd'hui au Sénat puis à la Chambre des représentants demain.
Faut que j'avoue que des fois j'ai le goût d'assumer la solitude puis de l'apprivoiser. Des fois je voudrais brailler parce que je peux. Puis quand la vie se décide de me rattraper, je voudrais sacrer contre elle. Juste parce que je peux. On m'a déjà dit que la solitude n'a pas besoin d'être un état de tristesse. Je vais m'accrocher à ces mots jusqu'à ce que ça passe. Des fois j'ai le goût de lâcher la défense, mettre mes tripes à table puis de m'en foutre de tout ce qui m'entoure. Juste parce que je peux. Puis si mon rire est étouffé, fais-toi-en pas, il reviendra. Ben là, j'ai besoin de faire mon deuil puis de respirer. Juste parce que je peux. On m'a déjà dit que la solitude n'a pas besoin d'être un état de tristesse. Je vais m'accrocher à ces mots jusqu'à ce que ça passe. J'ai déjà dit que c'était pas original de dire qu'on est solitaire. Tu m'as répondu qu'être heureux, ça y est pas plus.
Tiré de son premier album, Lisa Leblanc, Juste parce que je peux.
Briser l'isolement des aînés avec des appels téléphoniques. Des appels téléphoniques permettront aux aînés francophones de l'Ontario de briser l'isolement. Le programme Mon Centre à distance, qui a vu le jour au Centre de Good Companions d'Ottawa, a été traduit en français et doit être implanté partout en province. Le but est de briser l'isolement des personnes âgées grâce à des appels-conférences regroupant des intervenants de différents milieux. Au bout du fil, on peut entendre des prestations musicales, des entrevues avec des politiciens ou des discussions entre des aînés selon le thème proposé. Le centre de services GIG offre le programme à sa clientèle francophone depuis un peu plus d'un an, à raison de deux fois par semaine. Peu importe la raison, il y a des gens qui sont isolés et qui ne peuvent pas se déplacer. Ils ont maintenant accès à un programme, explique Charles Simard, directeur général du centre de la rue Murray. Les gens ont l'occasion de communiquer entre eux. C'est gratuit, suffit d'avoir un téléphone. Le gouvernement libéral de l'Ontario a annoncé lundi un appui financier qui atteindra jusqu'à 4,1 millions à 246 projets visant les aînés. C'est important que les Franco-Ontariens aient accès aux services dans leur langue. Les francophones sont une partie importante de la diversité en Ontario, soutient la ministre des Affaires des personnes âgées, Deepika Damerla. Dans le soleil, Jean-François Néron, le tiers des terrains de l'ancien jardin zoologique de Charlebourg est toujours inutilisé et sans vocation officielle depuis la fermeture des installations en 2006. Un dossier qui risque de traîner encore longtemps en raison d'une transaction qui n'aboutit pas. C'était à l'automne 2016. L'ex-présidente de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, CCNQ, Françoise Mercure, et le ministre de l'époque responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, inaugurait les sentiers des moulins aménagés sur les deux tiers de la superficie de l'ancien zoo que possède déjà la Commission. À l'époque, le ministre Blais avait alors déclaré que les discussions vont très bien pour que la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, toujours propriétaire de 163 905 mètres carrés de terrain, cède le lieu à la CCNQ. L'organisme devait avoir comme tâche de développer une vision autour de l'utilisation future de ce terrain et des infrastructures qui s'y trouvent, dont la coûteuse serre indo-australienne construite pour 15 millions de dollars. Qu'en est-il un an et demi plus tard? Difficile d'y voir clair à la lumière des bribes de réponses obtenues auprès des différents acteurs au dossier. L'actuel propriétaire, la Société des établissements de plein air du Québec, est peu loquace. La CEPAC est toujours ouverte à céder les terrains dans la mesure où leur vocation future demeure publique, explique Simon Boivin, responsable des relations avec les médias. Le Soleil lui a aussi demandé pourquoi la cessation du terrain n'est toujours pas effective un an et demi après l'annonce d'une entente qui devait se faire sous peu en octobre 2016. Les discussions se poursuivent avec la Commission de la Capitale-Nationale du Québec en vue d'un transfert des terrains, résume-t-il, justifiant que c'est un dossier complexe sans vouloir élaborer davantage. À la CCNQ, la responsable des communications Anne-Marie Gauthier confirme que des discussions sont en cours, sans plus. Une approche a été faite auprès du bureau du ministre Blais, aussi député de Charlebourg, pour tenter de comprendre ce qui retarde la transaction. Lundi, en fin de journée, le Soleil n'avait toujours pas obtenu de réponse. L'actuel ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a également contacté sans plus de succès. Le terrain dont est toujours propriétaire la CEPAC abrite les principales installations de l'ancien zoo. Depuis sa fermeture, la CEPAC avait fait connaître sa préoccupation face aux coûts d'entretien des bâtiments inutilisés. En 2013, l'organisme avait évalué à 14 millions de dollars les sommes injectées en 7 ans en frais d'entretien et en taxes foncières et scolaires. À cette facture, il faut ajouter la note des dernières années. Depuis 2006, ce vaste espace vert au cœur de l'arrondissement de Charlebourg est sous-exploité. Seul l'Hôtel de glace y a déposé ses valises 4 mois l'an de 2011 à 2016. En 2016, un appel d'intérêt auprès du privé pour y développer un projet s'est avéré un échec. La proposition du promoteur Perry Wong d'y implanter un parc thématique avec manège et insectarium avait paru trop ambitieuse, voire farfelue aux yeux de certains. Le gouvernement a refusé de lui donner son aval. Dans le Nouvelliste, un cri du cœur pour retrouver sa fille. La mère d'Ariel Pronovo vit des heures d'angoisse depuis maintenant une semaine. Sa fille de 17 ans est présentement en fugue et n'a donné aucune indication à qui que ce soit par rapport à l'endroit où elle pourrait se retrouver. Marie-Ève Brouillette lance désormais un cri du cœur pour que sa fille revienne à la maison saine et sauve. « Je veux juste qu'elle revienne. Je veux qu'elle soit à la maison », lance la mère, visiblement inquiète et exténuée. Depuis mardi dernier, elle ne cesse les démarches pour retrouver sa fille, pour communiquer avec elle et pour sensibiliser le public et ses amis via les réseaux sociaux afin de pouvoir avoir le moindre indice de l'endroit où elle pourrait se trouver. Ariel Pronovo n'habitait plus chez sa mère depuis quelque temps. Mardi soir, les personnes qui en ont la charge sont allées la reconduire au pavillon Bel Avenir, là où elle a recommencé à suivre des cours. C'est la dernière fois qu'elle a été vue. Elle devait assister à ses cours, mais elle n'y a pas été. On ne sait pas où elle est depuis, résume Mme Brouillette. Toute personne ayant de l'information à partager pouvant nous permettre de retrouver cette jeune fille peut communiquer avec le service de police de Trois-Rivières au 819-370-6700, note le sergent Luc Mongrain de la Sécurité publique de Trois-Rivières, 819-370-6700. Ce dernier mentionne qu'en 2017, 173 dossiers de plainte pour fugue ont été ouverts à la Sécurité publique de Trois-Rivières, ce qui ne signifie toutefois pas que 173 jeunes aient fugué, puisqu'une personne peut avoir été à l'origine de plusieurs fugues. En 2018, à ce jour, 39 dossiers de fugue ont été ouverts à la Sécurité publique de Trois-Rivières. Dans la tribune, Jean-François Gagnon, les nouveaux propriétaires d'AllZ, Gilles Bélanger en tête, ont l'intention d'accroître de façon importante la capacité d'hébergement de cette station qui comprend un centre de ski, un terrain de golf et un petit nombre de chambres d'hôtels. Jusqu'à 3 nouveaux hôtels pourraient être construits autour de la montagne au cours des années à venir. En entrevue avec la tribune lundi, M. Bélanger a révélé que de 300 à 350 unités d'hébergement supplémentaires seront potentiellement, ajouté à la station AllZ qui ne compterait qu'une quarantaine de chambres actuellement. Et dans le quotidien, bonne nouvelle, Mélissa Gagnon, les régionaux auront la chance de voir une production signée Robert Lepage l'an prochain. Dans la foulée d'un partenariat conclu entre Diffusion Saguenay et les gestionnaires de 4 salles de spectacle québécoises, Slave, produite par Ex Machina, se transportera au Théâtre Banque Nationale le 15 février 2019. Actuellement en création, Slave est le fruit d'une association entre Lepage et Betty Bonifaci. La chanteuse et musicienne est notamment connue pour la chanson-thème du film d'animation Les Triplettes de Belleville et son implication au sein du duo Béiste. Dans le cas qui nous intéresse, elle porte le chapeau de coproductrice et de directrice musicale. La tournée prendra son envol au Festival international de jazz de Montréal le 27 juin, alors que la chanteuse montera sur scène en compagnie de 6 choristes. S'en suivra une tournée québécoise, laquelle transportera la production au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, au Théâtre Gilles Vigneault de Saint-Jérôme, à la Maison des arts des Jardins de Drummondville, au Théâtre Banque nationale de Chicoutimi et au Diamant de Québec. En tant que diffuseur pluridisciplinaire, notre préoccupation centrale est d'assurer la circulation et l'accessibilité à des œuvres fortes et singulières. Directrice des communications chez Diffusion Saguenay, Claudine Bourdage explique que le partenariat liant les 5 diffuseurs majeurs québécois est le fruit de longues discussions qui se sont échelonnées sur plusieurs mois. Pour nous, c'est un super coup. C'était impossible de faire tourner du Robert Lepage au Québec avant. Le regroupement des diffuseurs fait en sorte que ce beau gros projet va pouvoir être présenté aux 4 coins de la province. Les billets pour le spectacle présenté à Saguenay seront mis en vente à partir du 21 avril. Le coût a été fixé à 68 $. À venir à l'émission Le quotidien des quotidiens sur les ondes de la radio de Canal M, les actualités culturelles et le segment Sujet libre. À tout de suite.